va shooter. Il va shooter.
Oh, 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 imaginable.
C'est pas possible, pas possible.
Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast NBA Extra. Aujourd'hui, pour m'accompagner, Marie Patrux.
Bonjour Baptiste, salut Chris.
Hello.
Et voilà, Chris Singleton.
Qui hello Baptiste, là. Hello Mary.
Hello Chris.
Wow.
Bon, vous avez l'air en forme.
Ouais,
oui,
ça va,
oh,
yes. Écoute.
Y a de quoi parce que le menu du jour est chargé. Petit point d'abord dans la course au MVP, ça y est. C'est déjà un petit peu le sujet un peu plus d'un mois de la fin de la saison. Et on se demandera si Nikola Jokic est-il vraiment déjà assuré de remporter ce titre, ce troisième, ce serait déjà le troisième. On reviendra aussi sur Evan Fournier après un mois après son trade à Détroit. Est-ce que sa situation a évolué dans le bon sens? Et puis, je voulais parler un petit peu des Pelicans, qui est un peu l'épouvantail à l'Ouest. Que doit-on attendre réellement de la Nouvelle-Orléans en cette fin de saison? Ce sont les trois questions auxquelles on va tenter de répondre dans les 30 prochaines minutes. Petit jingle et on démarre.
Il va shooter, il va shooter.
Oh, 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 imaginable.
Pour les bookmakers ou les sites spécialisés américains, il n'y a plus aucun doute, Nikola Jokic file tout droit vers un troisième titre de MVP, mais doit-on être si dithyrambique? Alors oui, le Joker reste dans ses standards statistiques habituels, avec 26 points de moyenne, 12,2 rebonds et 9,2 passes cette saison. Mais est-ce que ses concurrents directs n'ont pas aussi leur mot à dire, alors qu'il reste un gros mois de saison, je vous l'ai dit. Voilà, on pense à Shai, à Giannis, à Jason Tatum, à Luka Doncic. La question va être simple, Marie, est-ce que Nikola Jokic mérite-t-il d'être le MVP pour toi?
Alors moi, je pense que la course n'est pas terminée du tout. En effet, Nikola Jokic réalise une nouvelle grande saison, mais il n'est pas tout seul et je pense qu'il y a d'autres, et notamment un autre joueur qui est en train de réaliser une plus grande saison. Moi, je pense que Shai Gilgeous-Alexander mérite le titre de MVP, en tout cas
c'est clair.
Aujourd'hui. Il reste encore... Oui. Une
forcément.
Trentaine, voire vingtaine de matchs à chaque franchise. Je pense que sans Shai Gilgeous-Alexander, le Thunder ne serait pas là où il est aujourd'hui. Que c'est quelqu'un qui porte son équipe, qui porte des jeunes joueurs, qui les rend meilleurs, qui est meilleur, lui aussi. On l'a vu avec le Canada cet été lors du Mondial. Il le montre encore une fois tout au long de la saison. Il vient nous faire une série de 8 matchs à plus de 30 points. Il réalise des cartons. Il est rarement à côté de son match. Donc, je pense qu'en effet, Nikola Jokic est dans la discussion, il n'y a pas de souci, mais que Shai Gilgeous-Alexander, pour moi, est une longueur d'avance sur lui.
Ça a le mérite d'être clair. Est-ce que Chris a le même avis?
Chris, il veut d'abord le nom de bookmaker. Je ne l'amène pas avec moi à Vegas, hein. Mais d'où tu...
Non, c'est même la NBA aussi qui établit un classement assez souvent.
On est tout à fait d'accord qu'il y a des stats... MVP, mais
Jokic.
Oui, mais cette année, je crois que il y a d'autres joueurs qui ont des impacts vraiment chez Gilgeous au KC, à mon avis. Pour moi, c'est le favori aujourd'hui. Non seulement sur le plan basket, mais voilà, c'est un garçon qui passe très très bien, qui est en train de faire gagner son équipe. Aujourd'hui, ils sont premiers quand même de l'Ouest. Personne n'a pensé ça. Donc, on peut appeler ça une jeune équipe, mais lui, il fait le grand sage dans cette équipe. Les autres joueurs, moi, je commence à avoir plus en plus d'estime pour ce qu'il fait Tatum à Boston. Je crois qu'il a changé beaucoup. C'est un vrai leader cette année. Il fait des stats, mais il joue d'abord, ce qui est assez exceptionnel pour lui, il joue d'abord pour gagner. L'année dernière, il jouait beaucoup plus pour se mettre en avant, pour prouver aux autres joueurs NBA que c'était lui le man. Donc, je pense que ces joueurs-là, évidemment, Embiid blessé aurait été une des favoris aussi.
Je pense que Dallas perd trop pour que Doncic soit...
Ouais.
Et puis, il fait d'énormes chiffres. Ouais, c'est le meilleur scoreur de la Ligue. Mais là, ils sont trop dans le trou en ce moment
partie,
pour
de ces joueurs. Oui, même comme Giannis. On ne peut pas dire que Giannis, il fait une mauvaise saison. Non. Il fait des stats aussi, MVP. Mais ce n'est pas la même chose.
Il faut quand même que ton équipe soit régnante pour que tu reçoives le titre de MVP. Alors, c'est vrai que Jason Tatum... pourrait apparaître un peu plus régulièrement dans la discussion quand même.
Justement, j'avais un petit peu anticipé parce que je vous connais bien. Je vous regarde depuis quand même des années, même si ça fait pas longtemps qu'on parle ensemble.
Ah, coca.
Et je vais me faire l'avocat de Jokic, du Serbe. Alors, c'est tout simple, hein, mais finalement, quand on regarde le bilan déjà, parce que c'est quand même important des deux franchises, c'est quasiment la même entre le Thunder et Denver. Hein. Denver est troisième à l'ouest, il leur manque
Denver a toujours été. L'année dernière, ils étaient en haut de classement.
On prend
quand même de l'impact qu'un joueur peut avoir dans une équipe qui fait gagner. C'est pour ça qu'on est tout à fait d'accord sur le cas de Doncic, qui aussi, on ne peut pas...
Tu regardes les chiffres, tu dis pourquoi il n'est pas MVP, lui.
Voilà, on est d'accord.
En triple double
de moyenne depuis plusieurs années.
Est-ce que c'est pas lui le problème? Je lance un pavé dans la mare là, mais mon Dieu.
On fera ça dans une autre émission. Mais et puis voilà, ces stats sont encore un petit peu au-dessus.
Vas-y, donne-nous l'argument pour Jokic, s'il vous plaît.
Le bilan est assez similaire.
Le bilan est similaire, et ces deux franchises qui sont les Wolves et le Thunder, dont on ne sait pas encore exactement.
Qui est double MVP, qui est champion en titre, qui joue avec des gars qui ont été champions l'année dernière, donc qui ont une tonne d'expérience sous le capot avec eux. Et en face, t'as un petit jeune qui a construit cette équipe, enfin une équipe qui a été construite autour de lui, et il est capable d'emmener cette équipe de bébés tout en haut de la conférence Ouest, qui est complètement monstrueuse. Je pense que
c'est la nouveauté qui prime alors.
Non, c'est la
c'est
performance.
Pas la nouveauté. Je pense que c'est les qualités du joueur. En plus, contrairement peut-être à un Jamorant, c'est un joueur qui plaît énormément au public, qui plaît énormément
à
l'NBA.
Il rend les autres meilleurs, moi, je crois. Les joueurs qui entourent Nikola Jokic sont déjà très bons.
Ils connaissent, la
formule.
Et que
chez Gilgeous Alexander, grâce à lui, des gars sont... Est-ce qu'on parlerait de Lou Dort sans chez Gilgeous Alexander? J'en sais rien.
Mais en se mettant à la place de Jokic, encore une fois, qu'est-ce qu'il faut faire pour être ce qu'il mérite, je pense, vis-à-vis de ses stats?
D'abord, avant tout, je pense que lui, il s'en fout royalement.
Ça, on est d'accord.
Je pense que ce qui intéresse lui, c'est gagner son titre, rentrer jouer avec ses chevaux.
Alors, il y a
puis,
ça aussi.
Tout va bien.
On a l'impression, même, alors, au-delà des stats et tout, que...
Et tu dis ça pour Jokic, mais qu'est-ce que doit faire chez Gilgeous Alexander pour être considéré comme MVP alors?
Peut-être montrer que son équipe soit encore plus régnante.
Ils sont leaders de la conférence Ouest, donc ils sont régnants. Qu'est-ce qu'il doit faire de... Qu'est-ce que Jokic doit faire?
Parce que je me fais l'avocat du diable,
justement.
En ayant vu les classements... J'enlève ma cape de juge et je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Mais j'essaye de comprendre pourquoi les Américains mettent Jokic et que ça a l'air, en tout cas là-bas, assez logique. Et je suis d'accord avec vous. Shai a quand même beaucoup d'arguments.
Si logique pour eux là-bas. Il y a de plus en plus de... La dernière interview bord terrain chez Gilgeous Alexander, le gars lui dit « Bon, t'es clairement dans la discussion, à ton avis, où est-ce que t'en es ?» etc. Il répond avec beaucoup d'humilité, mais c'est quand même quelque chose qui est en train de pointer le bout de son nez. Peut-être que les gens attendaient de savoir aussi où en était véritablement Joel Embiid, attendent qu'il sorte totalement de la discussion. Les Mavs, avant le All-Star Break, ils font 6 victoires de suite. Doncic clairement était dans la discussion à ce moment-là. Maintenant, depuis le All-Star Break, ils sont à 6 défaites en 7 matchs. Doncic commence à se séparer, à disparaître de la discussion. Les choses sont en train d'évoluer. On est le 5 mars, 6 mars, je ne sais pas. Les playoffs commencent le 20 avril. Rien n'est figé dans aucune conférence, donc rien n'est figé pour le titre.
Et puis je pense que dans la même optique, tout le monde attendait aussi pour voir si OKC allait s'écraser ou pas. Mais par contre, avec chez Gilgeous Alexander, il reste en haut, il est clutch, il fait gagner des matchs, il fait bien jouer ses coéquipiers. Je pense que ça, c'est aussi important que tout ça, parce que je pense que s'il n'était pas un joueur collectif, on ne le considérera pas. Là, je le compare aujourd'hui, quand tu vois Giannis jouer, il joue beaucoup pour lui-même. C'est pas, il rend pas forcément les autres meilleurs. Donc, partout de là, lui, on n'en parle même plus. Mais par contre, il claque quand même.
Ouais, juste pour revenir sur les autres, je ne sais plus qui a cité, d'ailleurs peut-être tous les deux, Tatum quand même. Si, oui.
C'est
si ça reste, si ça reste sur cette série-là, il reste un mois, est-ce qu'il
il
peut
est
encore...
bien entouré.
Sachant
quand
que
même,
Boston
hein.
mériterait
il
quand même...
Il n'est pas tout seul, Jason Tatum. Hein. Ah,
c'est son problème.
Mais il y a une équipe qui joue probablement le meilleur basket de l'NBA aujourd'hui. Et lui en fait partie. Il est parti une partie des raisons. Parce que tout simplement, comme j'ai dit, il a complètement changé son optique. Il joue pour être champion, pas pour être bon. Donc c'est vrai qu'il a peut-être des chiffres un peu moins brillants, mais quand même pas mal, ils sont costauds. Et il joue dans une bonne équipe. Pourquoi il joue dans une bonne équipe? Parce que lui, il est bon. Lui, il est bon aussi. Donc il permet à Jaylen Brown d'être bon. Il permet à Derek White d'être bon. Porzingis d'être bon. Donc tout ça, voilà. Pour ça, on considère beaucoup la qualité de son jeu et ce qu'il amène à son équipe.
Encore une fois, je pense qu'il cherche plus le titre que le MVP.
Oui. Mais il prendra. Hein, t'inquiète.
Mais Shai aussi. Hein.
Oui,
Shai aussi. Fait, franchement, non, mais tous ces gars-là, ils ont... c'est un énorme honneur, je pense, d'être MVP, mais ils préféreraient tous être champions la fin de l'année.
Et la discussion, c'est toujours, est-ce que tu as eu une bague ou pas?
Ben oui,
pas, est-ce que tu étais MVP ou pas?
Non, non, on est d'accord. Juste Giannis, Doc Rivers disait qu'il était sous-estimé, Marie.
Ah bon,
est-ce
que... non, je ne pense pas qu'il est sous-estimé.
On verra ça plus tard.
Bon, en tout cas, ce qui est le bilan de tout ça, et bon, c'est toujours peut-être prématuré d'en parler, de cette course au MVP, mais voilà, le mois, le dernier
Moi,
mois va être encore très
sûr,
important.
Ce qui est sûr, c'est extrêmement serré. Ouais. Il y a beaucoup de candidats et c'est peut-être ça notre véritable chance cette année.
Ça.
C'est que on a des gens hyper performants très régulièrement. Mmh. C'est pas chacun son tour, ils le sont tous en même temps et que rien n'est fait alors que justement, on est début mars. Mmh. On a vécu des saisons où tout était bouclé très tôt dans l'année. Là, le suspense reste entier sur la
dernière,
fin de saison régulière.
On parlait
régulière.
Que de Jokic et Embiid.
Mais oui.
Il y avait Jokic
et
Embiid.
Voilà.
C'était
là,
encore serré, mais là, il y a
une petite
c'est des postes
branchette différents. De joueurs qui sont hyper intéressants.
Voilà.
Bon, et ben, on va suivre ça, évidemment, avec vous.
Désolé pour Jokic.
Non, mais peut-être que, tu vois, l'NBA, c'est aussi dans deux semaines, on dira autre chose, tu vois.
Ouais. Eh oui, c'est ça aussi.
C'est des photographies à des instants T. Les choses évoluent tellement, elles évoluent toutes les nuits.
C'est pour ça que vous êtes là tous les midis.
Voilà.
Bon, on va descendre un peu de standing, malheureusement, pour Evan Fournier, même si...
Ouch. Ouch.
Non, mais je parle du classement. Je parle du classement.
Le café n'était pas bon ce matin. Ouais. Ouais.
J'en ai pris peut-être trop, alors. Comme d'habitude. Non, je parlais du classement, évidemment, même si on peut se réjouir pour lui, puisqu'il a été enfin libéré le 5 février dernier de son contrat avec les New York Knicks. Et avec qui il avait seulement disputé 3 rencontres cette saison quand même. Transféré du côté de Détroit, l'arrière français a pu récupérer du temps de jeu, même s'il évolue donc dans une des pires équipes de la Ligue. Il est encore en sortie de banc pour le moment, mais il a par exemple pu jouer 26 minutes et inscrire 17 points ce lundi contre son ancienne franchise du Magic, justement. Bref. C'était difficile quand même d'imaginer ça il y a un mois. On est quand même... Enfin...
Bah, on savait qu'en changeant d'équipe, il gagnerait
voilà.
du temps de jeu.
Enfin, en tout cas...
Enfin, normalement,
on
c'était
difficile à imaginer...
Il ne s'est pas coupé dans la foulée. Mais en tout cas, c'est tout ce qu'on lui souhaitait.
C'était déjà. Difficile à imaginer tant qu'il était à New York. On est content, justement, Marie, de le voir. On a l'impression qu'il prend du plaisir.
Le plus important, c'est qu'il joue... Voilà. Je pense qu'en effet, il ne peut que prendre du plaisir. Hein. Son kiff à lui, c'est d'être sur un terrain de basket et de jouer au basket. Après, on a eu une petite inquiétude parce qu'ils sont très nombreux à son poste. On s'est dit, oh là là, qu'est-ce qui va se passer? Il va se faire couper, il ne va pas se faire couper, il va jouer, il ne va pas jouer et tout ça. Il a du temps de jeu. Après, je pense que ce n'est pas encore le Evan Fournier à son top que l'on a pu connaître.
Ça peut se comprendre.
Je pense que physiquement, tu ne peux pas revenir dans des rythmes de match tous les deux jours comme ça, quand tu n'as pas joué depuis aussi longtemps. Moi, je trouve que la plus grosse satisfaction, c'est qu'il joue. Après, les performances, elles vont venir, mais... C'est qu'il joue régulièrement. C'est pas une fois tous les 15 jours. Là, il joue régulièrement et c'est tout ce qu'on veut parce qu'on ne pense bien sûr qu'à l'équipe de France et aux Jeux Olympiques de Paris. Et un Evan qui ne joue pas et qui n'est pas dans le rythme, ça aurait été préjudiciable pour nous.
Oui, tout à fait. On est tous contents du fait qu'on espérait. Ça a duré très longtemps, cette histoire-là. Bon, on n'a pas tout... Toute l'histoire encore, mais bon, voilà, ça y est, il arrive aux Pistons. La situation n'est pas claire. Déjà...
Dans l'effectif de Détroit,
ouais. Le coach Monty, quand il est arrivé, avait l'air un peu surpris. Il ne savait pas quoi, comment je vais l'utiliser, qu'est-ce que je vais faire avec. J'avais l'impression que ce n'est pas lui qui l'a recruté. Mais Evans, c'est un vétéran. C'est compliqué de venir, quand tu es vétéran, dans une équipe de jeunes. Parce qu'il doit se comporter.
Lui, il a l'air d'apprécier vétéran. Ça, c'est ce qu'il dit.
Bien sûr, c'est toujours bien de jouer avec des jeunes joueurs.
Mais c'est difficile, t'as pas joué depuis un an et demi. Et
ils n'ont pas de référence avec lui.
Qui joue, c'est compliqué.
Donc,
il n'a jamais vraiment eu ce rôle.
Et je
ne
pense pas que c'est ça qui...
Il veut pas ça.
Il n'a pas allé aux Pistons pour ça. Pour l'instant, c'est une espèce de casting. Il est dans cette équipe de Pistons. Il y a du pour et du contre. Le pour, évidemment, c'est qu'il va jouer. Donc ça, jouer, même s'il joue 2 minutes, il joue. Hier soir, il joue 15 minutes, par exemple. Mais il a compris qu'il faut qu'il se montre, parce qu'en 15 minutes, il prend quand même 10 shoots. Donc 8 à 3 points, donc c'est beaucoup. Mais il sait que, voilà, tout le monde me regarde. Est-ce que je vais rester au Pistons? Est-ce que je vais aller dans un autre club ou signer dans un autre club? Et voilà, donc pour lui... L'avenir n'est pas clair, mais il va avoir sa chance. Et c'est ça qu'on voulait tous, pour l'équipe de France, pour lui-même.
Pour la suite de sa carrière.
Pour la suite de sa carrière, qu'il se remet sur le terrain, il se remet en marche. On connaît les qualités de Evan. On aimerait bien le revoir au niveau qu'il était à Orlando, où il était considéré comme un joueur très, très important dans cette équipe-là. On connaît ses qualités. Bon, voilà, donc il faut qu'il se mixe un peu avec ses jeunes, trouver le moyen de gagner du temps de jeu. Et ça sera plutôt sur le côté défensif, parce que Monty Williams, il aime quand même un petit peu comme Tom Thibodeau, qui était à l'extrême. Voilà, mais Monty Williams est plus ouvert. Donc, Evan va avoir sa chance, et c'est ça qu'on voulait tous.
Alors, quel avenir à moyen terme, Marie, t'aimerais voir pour lui ? Déjà, bon, voilà, jouer cette fin de saison, être assuré de...
Ne pas se blesser.
C'est vrai.
Voilà.
Être
franchement,
assuré d'aller
au JO, du coup. Ce serait dramatique. Qu'il reste en bonne santé, qu'il reste dans le rythme, qu'il retrouve un peu de confiance, même si je pense que c'est quelqu'un qui a une certaine confiance en lui, qu'il garde cette mentalité qu'il a toujours eu.
On n'en doute pas.
Il est droit et il dit les choses. Qui reste dans le droit chemin, voilà, jusqu'au début de la préparation des Bleus, qui vont terminer tranquillement la saison régulière avec les Pistons. Après, il va avoir le temps de rentrer en France, ça va lui faire du bien aussi, de retrouver les Bleus pour une grosse prépa. Moi, je pense qu'il faut... étape par étape, tu vois.
D'accord. Donc moi, je voulais aller un peu plus loin et voir la saison prochaine. C'est un peu dur de savoir. Il lui reste une saison de contrat.
Ça sera l'été pour tout ça. Je pense qu'il doit bien finir cette saison. Effectivement, ne pas avoir de blessures. Tous les joueurs, à un moment ou à un autre, doutent de quelque chose. Même les meilleurs de meilleurs. Evan a besoin de jouer, retrouver physiquement le rythme et puis prouver à lui-même et prouver aux autres. Je pense surtout aux autres, parce que lui, comme on l'a dit, il a confiance en lui, c'est ce qu'il fait, mais il faut que les autres... faut qu'il trouve, et ça, c'est l'NBA à 100%, il faut qu'il trouve la bonne situation pour lui. Ouais. Pas arriver dans une équipe où il y a 6 ailiers, 3 shooters, ça, c'est pas bon.
Malheureusement, il faut vraiment fois, c'est pas les joueurs qui décident ça.
On espère qu'il y aura des
Et l'idée, c'est aussi de redorer un petit peu son blason à NBA où, voilà, on imagine s'il fait un bon été, une bonne fin de saison, il peut trouver une meilleure franchise.
Est-ce que Evan, il pense plus à ce qui va se passer cet été avec l'équipe de France ou à son prochain contrat ?
Ouais, c'est pour ça que je dis.
Mais on n'a pas envie de le voir encore... Voilà, s'il reste à Détroit, peut-être que ça va être une saison compliquée.
Pourquoi pas ? Mais le but, c'est pas qu'il s'épanouisse dans
heureux,
une équipe, quoi, et qu'il joue.
Non, mais
il part de tellement loin, d'un côté.
Le gros frayeur était pour l'équipe de France. Oui. Évidemment, c'était impossible s'il ne trouvait pas une autre situation. Je pense pour Vincent Collet, l'équipe de France aurait été
compliqué, hein.
Très compliqué et terrible. Bon, maintenant, il s'est remis sur le terrain. Donc, étape par étape, effectivement, finir cette saison, essayer de montrer ses capacités, jouer avec l'équipe de France et puis, entre-temps, trouver une situation qui correspond à ses qualités.
C'est les agents qui vont faire ce taf-là.
Ah, bien sûr.
C'est pas lui qui appelle les franchises. Bonjour.
Non,
mais voilà, c'est tellement... il ne peut pas tout contrôler. Et il ne contrôle pas tout, hein, on l'a bien vu, il n'a pas tout contrôlé ces dernières années. Donc il faut que lui, il puisse contrôler ce qu'il peut contrôler. C'est-à-dire que quand il est sur le terrain, se montrer qu'il soit efficace. Quand, enfin, voilà, prendre soin de lui, ce qu'il peut contrôler, c'est avoir sa place en équipe de France, un rôle important, être un leader en équipe de France, amener loin cette équipe de France. Et peut-être que là, après, les choses vont se décanter, etc. pour lui. Mais faut qu'il soit maître de ce qu'il peut contrôler.
Ouais, parce
pour
qu'il
l'instant.
Faut quand même savoir, quand on voit le paysage, les Pistons, c'est une équipe en reconstruction totale. Donc, est-ce qu'on y va avec les vétérans? Est-ce qu'on continue à stocker les jeunes?
C'est ma question. C'est le joueur le plus vieux de l'effectif, ouais, probablement, ouais, 31 ans.
Ouais, ouais, non,
mais et il a que 31 ans.
Oui, voilà, c'est pas vieux.
Ouais, le pauvre. Non, mais il a bien fait de nous le rappeler déjà, il n'y a pas, si longtemps. Mais... Attendez, là, les gars, j'ai 31 ans.
Non, mais il est très possible qu'il y a une situation pour lui là, parce qu'il faut, on peut pas avoir que 12 jeunes, hein, je veux dire, à un moment donné.
Ouais, c'est ça.
Il faut quand même quelques joueurs qui savent ce qu'ils font.
Et un petit mot sur justement l'équipe de France, la météo actuelle, elle est plutôt bonne, même si on
à l'intérieur, elle est bonne. À la main, elle est moins bonne.
Ouais. C'est ça, c'est plutôt ça, mais... Bon, il y a encore le temps aussi.
Il va falloir quand même... on a une raquette exceptionnelle et on a du jamais vu, je pense, en équipe de France qui va se passer. Clairement, le fait que Théo Maldon ait été coupé, on en parlait hier dans NBA Extra.
C'est ça.
Que Frank Ntilikina soit sans club, que Thomas Hurtel joue encore en Russie, qu'il y a encore cette espèce d'imbroglion avec la fédération qui, je crois, ne changera pas d'avis là-dessus.
C'est pour ça que c'est bien que Evan voilà,
ouais, mais Evan, il va pas mener, je
non,
pense, hein.
Non, mais qu'on ait un bon manieur de balle, je pense que.
Oui, mais c'est pas.
Qui a. Je pense que ce qu'il faut faire, c'est tout simplement prendre des décisions. Pas attendre en disant on va voir plus tard. À un moment donné, le staff doit dire voilà, ok, on va aller avec ces deux-là.
Mais est-ce qu'ils les ont?
C'est en train de se dessiner, je pense.
Parce qu'à ce niveau-là, ce qui est clair, net et précis, on l'a vu l'année dernière, c'est qu'il faut un bon meneur, une bonne main, et puis le racket. Ça, c'est les deux choses qu'il faut. Le racket, on l'a. Maintenant, il faut l'orchestrer un peu, parce que ça ne va être pas aussi simple que ça. Tout le monde dit, oui, c'est bien, on a Victor, on a Rudy. Maintenant, il faut les faire jouer ensemble. Ou trouver des rotations qui fait que l'un ne marche pas sur le pied de l'autre. Mais le plus important, pour moi, c'est la main. Donc, on a vu les deux matchs récents. Moi, je ne cache pas, Strasel, je l'aime beaucoup. LBC, je pense, en duo avec les deux-là, ou un autre. Je ne vais pas empêcher les autres de faire leur casting. Mais
moi, j'aimerais bien que Franck Ntilikina retrouve un
club,
quand même.
Oui, mais ça, c'est toujours le problème physique avec Franck. C'est aussi, nous tous, on est d'accord.
Ouais, ouais.
Physiquement, c'est probablement le joueur qui peut s'imposer le plus. Mais toujours ces petits problèmes de blessure.
Oui. Et Kylian Hayes aussi, qui n'a toujours pas, vous l'avez dit, pas toujours retrouvé de franchise.
Mystère,
mais ça le meneur ne devrait pas venir d'NBA, du coup. On finit sur cette franchise qui passe la plupart du temps sous les radars. Et pourtant, elle mérite qu'on se penche un petit peu plus de près sur ses performances. C'est les Pelicans qui sont solidement accrochés à la 5e place de la Conférence Ouest. 37 victoires pour 25 défaites. Devançant quand même Phoenix, Sacramento, Dallas, les Lakers et les Warriors. Mais de quoi doit-on attendre réellement de New Orleans cette saison?
On verra quand on aura fini la saison régulière. S'ils sont toujours cinquièmes, ils sont cinquièmes, mais ils ont tous le même bilan. Mais il y a un petit écart, mais c'est rien. Enfin, je ne te parle pas des Lakers et des Warriors, mais les Suns, tu peux les voir
un match
remonter. Voilà. Les Mavs, ils sont dans le trou, mais pareil, ils peuvent remonter. Les Kings, ils ont l'air vraiment dans le trou.
Donc, vaut mieux qu'ils ne regardent pas derrière que devant.
Non, mais qu'ils vivent leur vie. Mais moi, est-ce qu'on peut véritablement émettre un avis sur cette équipe?
Non.
Encore une fois, on n'est pas allé au bout de la saison régulière. Alors, c'est vrai qu'elle se maintient pour l'instant en dehors du play-in et c'est une des rares à faire le yo-yo comme Dallas, par exemple.
Ouais. L'année dernière, ils n'étaient pas une surprise. Ils étaient, je crois, au mois de décembre, ils étaient premiers. Zion se blesse et ça change tout l'optique et tout le paysage. Deuxième partie de la saison était un peu catastrophique. cette équipe-là, c'est une des équipes les plus difficiles à décider. Est-ce qu'ils sont dans le premier échelon? Est-ce que c'est comme ça qu'on est en ce moment?
Ils sont au milieu.
On ne comprend pas pourquoi ils sont au milieu quand on pensait qu'ils allaient être en haut. Mais c'est vrai, quand tu regardes, moi je vois ça du point de vue de commentateur, quand tu fais un match de Nouvelle-Orient, tu te fais plaisir. Parce que c'est une équipe qui a un jeu très agréable. Je pense qu'on ne parle pas assez aussi du travail qu'a fait Willie Green, qui a fait du très bon travail avec cette équipe-là. Mais je pense que tout dépend de Zion. Si lui, il est là, cette équipe change complètement parce qu'ils ont tout ce qu'il faut autour. Des joueurs comme Trey Murphy, Herb Jones, c'est des joueurs de grande qualité. Vous devez être à l'intérieur, c'est très bon. Ils ont le poste 5. McCollum, et j'adore, Brandon Ingram. Moi, c'est un joueur vraiment qui est un peu... On ne parle pas assez aussi.
C'est un 5 vraiment complet.
Mais c'est, voilà, un top 5 NBA.
Ouais, mais après, est-ce que dans la tête...
Ah, ben ça, c'est autre chose.
Ça suit.
Ouais, ouais, non, mais...
Mais voilà... C'est
le problème avec Nouvelle-Orléans. Quand on les regarde, on ne dit pas, tiens, qu'est-ce qu'ils jouent intelligemment.
C'est horrible.
Ça court, ça shoot de partout. Ça défend, des fois, bien sur les ailes.
C'est vrai que c'est des grands joueurs, mais...
Pour moi, ce n'est pas encore une équipe top 4.
Qu'est-ce qui leur manque, alors?
Peut-être un peu d'expérience, la régularité, apprendre à gagner, pas
jouer
juste
ensemble,
apprendre,
parce
jouer ensemble.
Il y a eu tellement de blessés là.
Utiliser les armes au bon moment, parce qu'ils ont les armes, pas les faire dans le désordre. Mm. Mais vraiment, le travail de Willie Green, c'est ça, non seulement mettre 5 joueurs sur le terrain, mais qu'ils jouent ensemble. Et puis chacun se met, quand c'est leur moment, un peu comme le Celtics fait avec Tatum et Brown, voilà. Yeah.
Mais je voulais quand même souligner, je pense, l'évolution, même s'il reste un mois.
Ils sont cinquième.
C'est une équipe qui, depuis deux ans, joue les play-in.
Donc, c'est le style d'équipe qu'on dit tous, on n'aimerait pas les voir en play-off. Voilà. On n'aimerait pas jouer contre eux.
Ouais, mais alors là, 4 contre 5.
Là, ce serait les Clippers, par exemple.
Ouais.
Est-ce que...
Tu vois les Clippers passer.
Non, ils seront favoris. Mais tu sais...
C'est une équipe qui va embêter, quoi.
Suffit de faire un ou deux faux pas en play-off et t'es out. Hein, donc, il faut faire attention.
Ah ouais. Et un petit mot quand même sur Zion, Marie. Est-ce que ce serait pas sa saison la plus aboutie, même s'il y a 2 ans?
Il est candidat au Dunk Contest, vous avez
oui,
vu,
j'ai
pour
vu
l'année
ça.
Prochaine.
S'il est All-Star.
S'il est All-Star, fait en sorte d'être All-Star, gars.
Voilà. Je pense que
lui manque encore.
Je pense que lui aura la même réponse que Kawhi Leonard. C'est parce que je suis en bonne santé. Je joue. Et effectivement, je crois qu'il a fait moins de passages à côté du buffet. Et puis, il travaille un petit peu plus dans la salle. Il a l'air d'être physiquement un peu mieux que l'année dernière.
Tu dis ça et puis on va... La semaine prochaine, on va entendre.
Parce que le plus gros critique de ce joueur-là était là. Hein. C'était
bien
pas
sûr.
La façon qu'il joue au basket, c'est comment il se comporte en dehors
du terrain.
En plus,
c'est quelqu'un qui tente, je trouve, de s'intégrer dans un collectif.
Oui, cette année,
on parle moins de lui, quoi. C'est moins lui. Je trouve que on parle des Pelicans aujourd'hui. Avant, on parlait de Zion Williamson
qui
joue dans l'équipe des Pelicans.
Qui va démonter la NBA,
etc.
Pas du tout, non.
Et c'est vrai que Willie Green a réussi ce pari-là, parce qu'avec Brandon Ingram aussi, c'était peut-être pas très simple. Il a géré tous ces égos-là et peut-être qu'en effet, ils avancent un peu masqués, en fait.
C'est ça.
Ils sont sous les radars, ils font leur petit boulot, on parle plus d'eux, etc. Donc peut-être, en effet, qu'ils seront capables, pour l'instant, ils ne nous l'ont jamais montré qu'ils étaient capables de réaliser un coup quand ça comptait.
On va voir quand ça compte, effectivement. Voilà. Des joueurs comme McCollum et tout ça, on n'en parle pas. Mais c'est un très, très bon joueur. Donc,
du coup, c'est quelqu'un qui a de l'expérience en play.
L'expérience, je mets dans le même cadre que Bradley Beal, des joueurs comme ça, qui sont des joueurs sûrs. Mais tout ça, il faut que ça joue ensemble au bon moment.
Et du coup, c'est pas parce qu'on pense à ceux de derrière que c'est une anomalie de les retrouver cinquième quand même un petit peu.
Les autres n'ont pas fait leur boulot, eux l'ont fait.
Voilà. On verra après
ça.
En play-off.
Si les Lakers, s'ils n'avaient pas fait n'importe quoi, ils seraient peut-être en haut. Hein.
Nous, évidemment, c'est pas qu'on les sous-estime, mais on ne pensait pas qu'ils seraient là. On ne pense pas qu'ils vont rester là.
Parce qu'on a vu les autres.
Quand on a parlé, la
conférence Ouest.
On parle plus des gens qui déçoivent, parce que ça choque un peu. Dallas et tout ça, ça commet au qui
c'est
plonge.
Ça. C'est ça.
On parle de ces équipes-là.
Écoutez, on avait dit 30 minutes pour répondre à ces questions. Je pense qu'on
C'était
l'a
très
fait.
Bien,
je vais vous laisser filer
On va aller en faire 45 minutes.
Voilà, le nombre de minutes quand même dont vous parlez de NBA par jour.
Mais c'est notre travail.
Mais c'est quand même beau comme travail.
Oui, c'est pas mal. Ouais.
Bah, en tout cas, merci beaucoup à vous. Merci, merci aussi à nos auditeurs. On vous pousse une nouvelle fois à voter, pour, enfin à noter ce podcast et à commenter sur toutes les plateformes. Et on se retrouve donc la semaine prochaine. Merci à tous.
Bye bye.
Salut. Au revoir.
Ce mec-là, il faut l'enfermer. C'est pas possible.